Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Georges Laflotte qui fait une exposition au Loco Loco depuis le 9 novembre, une exposition qui va durer jusqu'au 5 janvier. Bonjour Georges.
Bonjour à toi.
Alors, donc tu fais une exposition au Loco Loco.
Ouais, j'expose de la peinture et quelques sculptures.
Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, en commençant par le début, pourquoi tu fais de la peinture et de la sculpture alors ?
Waouh,
c'est quelle question, hein ?
Ouais, c'est terrible. Bah, je pense que je peux pas faire autrement. Je sais pas s'il y a un pourquoi vraiment. J'ai rencontré la peinture il y a très longtemps. Je faisais d'autres choses et à un moment donné, ça s'est imposé. Il fallait que je peigne. Voilà. Et en fait, je me suis mis d'abord à sculpter parce que la peinture m'impressionnait tellement que j'ai eu du mal à m'y coller vraiment. Et puis très vite, c'est venu, je me suis mis à peindre. Donc maintenant, je sculpte et je peins. Quoi.
On ne peut pas dire que ça soit une vocation initiale. Tu es venu à la peinture et à la sculpture.
Bah, je crois que dans mon trajet, il n'y a aucune vocation. Je te disais que je n'ai pas toujours fait de la peinture. Avant, j'ai fait du théâtre, de la danse. Et ça a toujours été des rencontres fortuites. Quoi. J'aurais jamais, on m'aurait demandé, tu vois, à 18 ou 20 ans, on m'aurait dit « tu vas danser ». J'y aurais pas cru. Voilà, tout c'était une histoire de rencontre, quoi. C'est pas des choses que j'ai programmées, j'ai pas eu de formation dans ce sens. C'est des rencontres de vie, quoi, en fait.
Ceci dit, t'as peut-être été déjà sensible à la peinture depuis plus longtemps que l'an 2000 où tu divergeas vers cette direction.
Ouais, il y a des rencontres, on peut essayer de les situer rétrospectivement, si tu veux. Moi, j'y réfléchis, j'arrive à situer des choses. Par exemple, je sais que dans mon enfance, j'étais confronté à la peinture. Il y avait chez moi, chez mes parents, il y avait ces vieilles encyclopédies, je ne sais pas si tu les connais, les encyclopédies Alpha, donc sur l'univers de la peinture. Donc, je sais que tout môme, j'ai regardé du Ingres, du Delacroix, du Degas... et que c'était certainement mes premières fascinations en ce qui concerne la peinture, quoi, et les images. Et dans un contexte d'autant plus particulier que moi, je vivais en Afrique. Donc par ailleurs, j'étais confronté à un univers et culturel et pictural complètement différent. Donc c'est une des particularités de mon héritage culturel, quoi. Par ailleurs, je lisais les surréalistes, tu vois, à peu près à la même époque. Et voilà, j'ai toujours été entre deux mondes comme ça. J'ai vécu quand même 16 ans en Afrique, donc j'ai eu le temps d'être confronté à une espèce de double influence, double culture, quoi.
Alors, autour de l'an 2000, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup tu te mets à peindre et à sculpter alors ?
Eh ben, là pour moi c'est assez clair. J'étais à peu près 20 ans intermittent du spectacle, donc dans le domaine des arts vivants. Je faisais du théâtre, de la danse, de la mise en scène. Donc, je passais beaucoup de temps, tu vois, en travail, en recherche de travail. Pendant toute une période, j'ai eu une compagnie, donc je faisais de la recherche de subventions, etc. Donc, dans un univers relationnel assez intense, tu vois, je faisais beaucoup d'enseignement aussi. Donc je donnais des cours à des enfants, des adultes, dans toutes sortes de configurations, en milieu scolaire, en milieu associatif. Donc je transmettais et je sentais que je saturais. Et ce petit truc qui me travaillait à l'intérieur relativement à la peinture, à un moment donné, ça s'est imposé. Je me suis dit, il faut que tu arrêtes le reste et tu te concentres, quoi.
C'est une activité qui recentre.
Voir,
c'est un cheminement intérieur.
Oui, bah ça c'est, je pense que pour moi en tout cas c'est la grande leçon, quoi. C'est une rencontre avec une trajectoire intérieure, mais que je faisais aussi parallèlement avec d'autres outils, tu vois, avec la méditation, avec des choses comme ça. Ça s'est concentré comme ça. À un moment donné, je me suis dit stop, stop les boîtes noires, stop les relations, les conflits, les égos surdimensionnés du milieu du spectacle. J'avais besoin, en fait, de cette forme de concentration, d'isolement, et autour d'un outil de création que je maîtrise entièrement. Plus avoir besoin de salles, d'argent pour monter des choses, de courir à droite, à gauche, tu vois. Pouvoir se lever le matin et prendre un crayon, un pinceau et y aller, quoi.
Comme je le disais, un petit peu de cheminement intérieur, c'était pas optique d'en faire un métier, c'était plutôt non. Vraiment une passion, quelque chose qui te concernait. Et est-ce que ça a pris du temps avant que tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui va exposer ?
Oui, ça a quand même pris au moins le temps que le travail que je produisais, il me paraisse à moi intimement susceptible d'être montré. Après, j'ai pris avis, si tu veux, j'étais relativement concentré sur ce que je faisais, mais voilà, je m'arrangeais pour... Il y avait des gens qui passaient quand même, tu vois, je me confrontais, je montrais mon travail. Et ça a pris au moins ce temps-là qu'à un moment donné, je me dise, bon, là, je peux montrer, quoi. Là, je peux sortir le travail de l'atelier. Mais c'est vrai que c'est une expérience... maintenant, pour moi, elle est devenue assez claire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette étape, s'il n'y a pas cette rencontre avec le public, s'il n'y a pas le dialogue, s'il n'y a pas un retour... tu vois, c'est comme une chose vaine, quoi, beaucoup de choses qui dorment dans les cartons. Et ça, par contre, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que autant j'aime la solitude du travail, autant je trouverais ça vain si ça reste juste de moi à moi, quoi. S'il n'y a pas une histoire à raconter. Je ne sais pas si je raconte vraiment des histoires, mais en tout cas, j'essaye de transcrire ou de signifier des choses, je ne sais pas. Et donc là, on est dans un processus quand même de communication. Il faut qu'il y ait du retour, sinon tu sais même plus ce que tu fais. Moi, je sais que, par exemple, l'essentiel de ce que j'apprends de ma peinture, c'est justement dans ce retour que les gens me font. Tu vois, les gens, ils observent, ils commentent, etc. Et là, moi, j'apprends à regarder à travers leur ressenti, leurs commentaires.
Mais il n'en reste pas moins que ta peinture est ton premier retour. C'est-à-dire que tu vois dans la peinture que tu réalises un retour de ce que tu es. Et après, effectivement, je suis d'accord avec toi, il te faut aussi le retour d'autres personnages pour que tu ne restes pas autiste avec tes considérations personnelles qui peuvent être nombrilistes. Si d'aventure, ça restait coincé.
Ouais, tu as raison. Mais ces deux étapes, je suis d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, moi, je l'observe dans ma manière de travailler et comment je vis mon propre travail. J'observe que, par exemple, je construis en regardant effectivement ce que je fais. Mais ça reste cette pratique solitaire, tu vois, dans l'atelier où t'es confronté, où il peut y avoir des longues périodes, où t'es là, où tu regardes simplement, où t'accroches des trucs, t'accroches ce que t'as fait la veille au mur, tu t'assois sur une chaise, tu regardes longuement, etc. Ou même tu hésites sur le travail. Donc il y a aussi cette confrontation de toi à toi. Mais ça, c'est la période
d'incubation.
Du travail, quoi. Et après, il y a cette autre, cette espèce d'ouverture, ou en tout cas d'appel à une ouverture pour qu'il y ait autre chose, pour que le regard de l'autre vienne aussi construire, parce que c'est aussi le regard de l'autre. Je pense que c'est un peu pareil pour tous les arts, tu vois. Un livre, c'est le lecteur qui le fait aussi, tu vois. Et chaque lecteur fait son livre. Il n'y a pas de vérité absolue de l'écrit. Et je pense que c'est pareil pour la peinture. En tout cas, moi, c'est ce que je me souhaite de mieux. C'est que chaque observateur, chaque personne qui prend le temps et qui a le désir de se confronter à travers son regard, sa présence au travail que je produis, et ben, qui parte en voyage, quoi.
Il est triste des artistes de type un peu maudit qui n'ont pas de retour public et qui sont perdus dans leur monde intérieur. C'est un peu onaniste, en fait.
Dieu merci,
tu n'es pas concerné.
Moi, je me sens pas concerné, non. Hormis le fait que je sens que la peinture reste quand même... ça reste un art austère, quoi. Ça, je le ressens. Il y a une forme d'austérité, je le sens dans le travail, je le sens dans la réception que les gens en général font de la peinture. Il y a quand même peu de gens, mais c'est aussi souvent par pudeur. C'est quand même assez difficile d'aborder la peinture, tu vois. Par exemple, la musique a une dimension souvent festive, qui lie les gens, etc. La peinture est quand même un art plus difficile à aborder. Les gens s'y confrontent quand même plus difficilement. Ça se voit dans le regard quand tu es dans une exposition, la manière dont les gens circulent dans l'espace, dont ils se posent, comment ils arrêtent tu vois, leur présence, leur regard, comment ils se laissent imprégner, traverser, comment ils rentrent en relation. Tu sens que pour eux, c'est pas facile, quoi. Tu sens que pour les gens qui n'ont pas une pratique ou qui n'ont pas été initiés d'une manière ou d'une autre, ça peut être une auto-initiation, hein, des fois. C'est des gens. Moi, j'ai un ami, il est terrassier, tu vois. Et une des plus belles conversations que j'ai eues sur ma peinture, c'est avec lui. Curieusement, tu vois. Donc, c'est aussi une affaire pas seulement de culture, mais de sensibilité particulière à l'image ou à ce qu'un univers développe.
Alors c'est peut-être austère la peinture, mais un tableau qui rentre en communication avec un individu, ça peut être magnifique pour l'individu. Il sent ce tableau, ça lui fait quelque chose, quoi. Ça lui procure des sensations quand même.
Bah ça, c'est une magie, même pour moi, parce que je l'entends, ou en tout cas, je crois l'entendre dans certains commentaires de certaines personnes, tu vois. Je sens qu'ils rentrent, qu'ils sont nourris, quoi. Ils vivent une aventure réelle, intérieure. Je ne sais pas si elle est d'ordre uniquement esthétique, ou émotionnelle, ou allez, on peut tenter même spirituelle, tu vois, ou intellectuelle, va savoir. Mais ça m'arrive, ouais, d'être en communication, en dialogue avec des gens, en montrant mon travail, et de sentir que oui, ils sont touchés vraiment, et ils peuvent pas toujours dire où, tu vois. Ça, c'est aussi un mystère, parce qu'eux-mêmes, ils sentent qu'il y a un truc qui se passe, mais ils peuvent pas nommer forcément. Mais ça, j'arrive à le comprendre, parce que moi-même, c'est ce que je vis en face de mon propre travail, tu vois. Je sens, je suis capable de dire là, dans tel travail en cours, où il y a un truc qui se passe, je sais qu'il y a. Je sens que je vais creuser, je sens que ça vaut le coup, quoi. Mais je peux pas forcément tu vois, le rationaliser, tenir un discours là-dessus. C'est, il y a quand même une forme de. L'émotion est particulière quand même en face de la peinture. Elle est spécifique.
Alors, tu n'as pas tout à fait répondu à ma
Oui,
question tout
dis-moi.
à l'heure. C'était combien de temps s'est écoulé avant que tu as osé justement montrer tes créations dans des espaces publics?
Ça a pris à ce moment-là 3 ans en fait. Ma première expo, je l'ai montée en 2003. Voilà, donc ça a été 3 ans de cette première plongée, voilà, l'atelier, et voilà, très peu de choses en dehors de l'atelier, donc du travail, du travail, du travail, de la présence dans l'atelier. Donc ça a pris ces 3 ans-là.
Alors maintenant, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton travail justement? Comment tu le qualifierais? De quoi s'agit-il? C'est de la peinture abstraite, géométrique, de l'optical art, assez figuratif, c'est expressionniste? Comment tu le définirais en fait?
Je ne sais pas si je vais arriver à définir, mais en tout cas, je vais peut-être arriver à situer par rapport à des notions comme ça qui arrivent souvent dans le discours quand on essaye de situer la peinture. Alors, il y a cette question de l'abstraction et de la figuration. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Il y a une dimension figurative dans mon travail, à certains endroits. En particulier, il y a des corps et des visages. Et en même temps, il y a des choses qui pourraient être qualifiées d'abstraites. Et moi, c'est une opposition idéologique, conceptuelle, qui pour moi, personnellement, n'a aucun sens, quoi. Et j'ai deux repères, si tu veux, dans l'histoire de la peinture. Il y a en particulier Cantor, qui était aussi un homme de théâtre, mais qui dit que ce qui est abstrait est réel, quoi. Et Zhao Wuqi, qui est un peintre chinois, dit à peu près la même chose. Il dit ce qui est abstrait pour vous est réel pour moi. C'est-à-dire que je ne me sens pas concerné par cette problématique de l'abstraction et de la figuration, si tu veux. Et en plus, je pense que l'histoire de la peinture, en tout cas contemporaine, est à peu près à cet endroit aussi. Tu vois, on parle de nouvelles figurations maintenant. Il y a eu toute cette grande période de l'art moderne, de l'abstraction jusqu'aux formes radicales du tableau blanc, tu vois, Mondrian. Mais moi, personnellement, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je. Comment je peux le dire autrement?
En fait, la question, c'est comment pourrais-tu parler de ton art? C'est surtout ça. Comment tu
Alors,
en parlerais?
je vais en parler de manière médiane, si tu veux. J'y pensais l'autre fois, je pensais à Van Gogh. Je me disais, bon, Van Gogh, il est dans le sujet. Par exemple, il peint les tournesols, il peint les champs de tournesols. Ok, c'est donc de la figuration. Mais si tu regardes la peinture, si tu regardes la matière, Je sens que Van Gogh, il peint pas un champ de tournesol, il peint pas le tournesol. Il peint sa manière de percevoir, il essaye de transcrire la manière dont il perçoit la réalité ou la manière dont il perçoit le... Et si tu vas chercher la matière, si tu regardes le coup de pinceau, de la manière dont c'est... Tu vois, de la manière dont il inscrit l'irisation, ce que la lumière produit pour notre œil ou pour notre esprit, comment il la traduit dans un geste. Voilà. Et si tu regardes ça de près, tu te dis, c'est de l'abstraction totale. C'est, pour moi, c'est à cet endroit-là qu'il n'y a pas d'antinomie, si tu veux. Après... Je ne peux pas nier qu'il y a des aspects figuratifs. C'est, par exemple, ces derniers, surtout ces dernières années, mon travail a pris à certains endroits un aspect un peu chamanique, je dirais. C'est vrai, j'en parlerai comme ça. Et de fait, la peinture, par exemple, la peinture aborigène qui est liée au rêve, qui est liée à tu vois, une forme de tradition, une forme de dimension sacrée, elle me touche beaucoup. Je sens qu'il y a, il y a quelque chose qui est très fort et qui me touche, quoi. Donc il y a aussi des éléments comme ça, figuratifs, il y a des têtes, des personnages, des corps qui
des tortues.
Je ne sais pas s'il y a des tortues, il y a des gens qui voient des tas de choses. Voilà, c'est une grosse question. Après, dans ta question, il y avait aussi cette dimension, tu vois, les catégories. Ce dont je suis certain, en tout cas, c'est que mon travail a rien à voir avec l'art conceptuel. C'est enfin, ce qu'on a appelé... tu vois, l'art conceptuel, c'est-à-dire l'art qui est généré sur la base d'une idée, d'un concept.
Qui voudrait signifier quelque chose.
Et un jour, j'ai entendu, ou j'ai lu, je crois, c'était dans un numéro d'Art Press sur la peinture, j'ai lu la très belle expression de peinture rétinienne. Et je me suis dit, voilà, ça, ok, ça me touche. Voilà, donc je peux dire, je fais de la peinture visuelle ou de la peinture rétinienne, c'est-à-dire... Pour moi, ça n'a aucun sens, le concept en peinture. Je suis comme un espèce de cuisinier qui n'a pas appris la cuisine et qui invente la cuisine avec son nez, au pif, quoi. Au troisième trou de nez, comme disait le beau-père de ma sœur aînée, c'était un sculpteur de la génération de Picasso, etc. Il disait ça. Il disait, il faut travailler avec le troisième trou de nez. Je trouvais cette expression très, très belle, quoi. J'utilise la matière que j'ai à disposition, le support, les papiers, le format, le médium, le pinceau, la taille du pinceau, le chiffon, et puis tu te lances, quoi.
Alors tout à l'heure, tu as parlé de sculpture et de peinture, donc qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qu'on va voir au Loco-Loco? Justement, on va voir des peintures, on va voir des collages, c'est de l'acrylique, de la gouache, de l'huile?
Alors il y a, au Loco-Loco, il y a une trentaine de pièces peintes, je dis ça parce qu'à chaque fois, œuvre, ça me fait un terme qui me... Voilà, tableau, c'est pas vraiment des tableaux, parce que la particularité, c'est que mon support de prédilection, c'est le papier. Le papier et le carton. J'ai commencé à travailler avec la toile, mais je n'ai pas encore réussi à rentrer en sympathie avec la toile. Donc, c'est essentiellement, je reste attaché au papier parce que j'ai commencé avec le papier, que le papier me touche par son côté, sa fragilité, son côté éphémère. Sa fragilité. Alors, je travaille sur des papiers de toutes sortes. Hein. Il y en a des. Je peux travailler sur. Il y en a qui sont très, très fragiles. Du papier de paperboard, tu vois. Très. Et à tel point que sur certaines de mes pièces, c'est la peinture qui tient le papier, tu vois. C'est pas l'inverse, quoi. C'est la couche de peinture qui donne la tenue au papier. Voilà, donc essentiellement, une trentaine de pièces sur papier. Il y a. Ça va bouger, hein, je vais la faire vivre cette exposition, mais pour l'instant il y a 6 ou 7 sculptures de tailles différentes. Là j'en ai amené une encore aujourd'hui.
Avec quelle matière? C'est sculpture avec quoi?
Alors moi j'ai sculpté essentiellement du métal, mais il se trouve que là il y a du métal et bois. Il y a une petite tête en fil de fer par exemple. Il y a une petite pièce en pierre. C'est pas de la pierre taillée, mais c'est des assemblages. Une petite tête en pierre, voilà. Mais sinon, essentiellement, moi, j'ai sculpté du métal toutes ces années.
Donc, sculpte du métal, c'est-à-dire tu abrases, tu ponces, voilà, tu fonds, tu fais couler quelque chose dessus?
Non, ça, c'est une étape que je n'ai pas encore abordée. C'est-à-dire que je travaille, j'ai pas de forge. Essentiellement, je travaille avec du métal de récupération, donc des pièces de récupération rouillées. Et donc, je nettoie, je coupe, je mets en forme, je tords et je travaille à l'arc. En fait, je
soude
à l'arc, essentiellement. Et puis après, puisque certains métaux ne se soudent pas à l'arc, ou en tout cas plus difficilement, les métaux non ferreux, hein, le cuivre, etc. Après, il peut y avoir assemblage aussi, boulonnage, etc.
Alors, si tu parlais d'un petit peu de ton imaginaire, parce que tout à l'heure, on a parlé quand même que tu te coltinais avec un art qui était originellement peut-être un cheminement intérieur. Je ne veux pas revenir dessus. Mais est-ce que tu as un imaginaire particulier ? Tu as osé parler de chamanisme. Quand tu crées une œuvre, qu'est-ce qui se passe ? Tu pars de la feuille vide ou tu as une idée préconçue ? Tu te dis, tiens, je vais faire ci. Ou alors, au fur et à mesure que l'œuvre avance, et l'œuvre avec des guillemets, tu te dis, tiens, je pourrais aller plutôt dans cette direction plutôt que celle-là. Comment ça se passe, ton processus créatif, en fait ?
Bah, en général, c'est de l'improvisation pure. Il peut arriver, ça m'arrive, que j'ai le projet de travailler, par exemple, sur un corps ou un visage. Enfin, généralement, c'est le corps, en termes de projet, qui souvent revient. C'est-à-dire un travail. Je travaille d'ailleurs sans modèle. C'est-à-dire, ça, c'est une des pistes qui revient régulièrement. J'essaie de peindre ou dessiner des corps sans modèle de tête, c'est-à-dire retrouver des proportions, du mouvement, de la présence, de la matière, de la texture, de la peau, de la chair, etc. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, je peux avoir ponctuellement comme ça, ou quand je dessine, un objectif de dessiner des corps ou... Mais généralement, avec la peinture, ce qui se passe, c'est que c'est zéro projet, quoi. C'est ce qui me convient le mieux, en fait. C'est-à-dire, les actes, c'est choisir un papier. Je travaille au sol le plus souvent. Donc ça, c'est une particularité. Je suis penché sur le sol, à même le sol. Je choisis le support. Je choisis le ou les médiums. Du goudron, puisque je travaille avec des choses assez diverses en termes de matière, avec des peintures en bâtiment, des peintures émail, de l'encre, du crayon, du feutre. Donc, je pars là-dessus et en fait, j'essaye de découvrir ce que je fais en le faisant. Donc, c'est assez compliqué de...
J'ai pas d'intention, quoi.
Mais j'ai pas d'intention, non. Je peux pas dire que ce soit ma manière de procéder habituelle, quoi. Moi, je peux proposer une petite chose quand même, parce que ça, j'y ai pensé ce matin et c'est une chose que j'avais envie de dire avec cœur. Je voudrais, pour l'occasion de cette exposition, je voudrais faire un petit hommage et un petit salut à Vincent, qui m'accueille au Loco Loco, parce que c'était une belle rencontre. C'était pour moi un vrai plaisir de monter cette expo avec lui. Et c'est quand même Vincent m'accueille dans son lieu, dans d'excellentes conditions, sans rien me demander en contrepartie. Ça mérite en tout cas une mention de dire que voilà, que Vincent ouvre son lieu à un travail. Et voilà, je voulais en tout cas le remercier pour ça.
Et le lieu sert bien tes œuvres. Et tes œuvres s'intègrent bien dans ce lieu.
Ah ben ça, c'est le travail de l'accrochage qui est...
Qui a duré du temps, parce que je t'ai vu pendant 2-3 jours en train de l'installer, ça a pris du temps apparemment.
C'était même 3-4,
ah oui.
Mais j'ai besoin aussi de ce temps-là. Je suis incapable de faire une accroche sauvage en me disant, voilà, il y a un espace là, je mets un truc. Quoi. Moi, quel que soit l'endroit où j'expose, j'ai toujours procédé comme ça et je ne sais pas faire autrement. Il faut que je vive dans le lieu, que j'essaye de tirer... L'espace est important, parce que l'espace, c'est ce qui détermine le regard. Et la manière dont les gens vont pouvoir circuler, la manière dont le travail va pouvoir entrer en communication avec l'espace du lieu, avec son énergie, avec la lumière, tout ça, je prends en compte. Et c'est peut-être ça lié quand même pour beaucoup à mon travail dans le milieu du théâtre aussi. Comme j'ai fait de la mise en scène, je suis extrêmement sensible à ça. Je prends tout en compte, quoi. Hein, la lumière, l'espace, les circulations. Donc voilà, je prends le temps qu'il faut pour accrocher. Et oui, du coup, l'espace, j'arrive à créer un vrai dialogue avec l'espace. En tout cas, je me fais fort de ça, quoi. Je ne veux pas que ce soit un travail posé dans un lieu. C'est une véritable équation, tu vois. Il faut qu'il y ait des signes, un signe égal, des plus, des moins. Enfin, c'est des rapports entre les choses. Il faut créer des rapports. Sinon, c'est l'histoire du nombre d'or, quoi. C'est une question de rapport, l'harmonie, en tout cas la vibration qui va naître de cet ensemble, c'est une question de rapport. Il faut mettre les choses en rapport. Voilà, donc ça, ça je peux dire qu'en règle générale, j'ai beaucoup d'attention pour cette dimension-là, quoi. De même qu'à l'intérieur du travail, c'est toujours une question de rapport entre la ligne, la masse, le trait, la couleur, l'épaisseur, la matière. Et en gros, pour moi, le travail de la peinture, c'est ça. C'est, tu te poses devant et tu te dis, est-ce que ça fonctionne, quoi ? Est-ce que ça crée une dimension nouvelle, tu vois ? Est-ce qu'on est passé de l'unité à la dizaine ? Est-ce qu'on a changé de plan ? Est-ce que la transparence fait que tout d'un coup on rentre dans ce qui est censé être un plan et tout d'un coup on a une perspective, on a une ouverture de l'espace. Et tout ça, c'est la matière qui le fait. C'est comment on met en rapport toutes ces données, le trait, les couleurs, le grain, tu vois. Ouais, c'est
des déséquilibres qui dynamisent. Du plus et du moins qui fait que...
Ouais,
ça circule.
Ouais, souvent, moi, quand j'observe mon travail, et ça m'arrive souvent, à chaque fois que je dois le montrer, je re-regarde, si tu veux. C'est comme si mon travail, il explore un... Il y a à la fois l'expression d'un chaos et la recherche de la structuration de ce chaos.
Double mouvement de l'entropie et puis d'une espèce de tentative de sophistication, d'organisation de la matière.
Ouais, d'organisation en tout cas. D'où le terme que j'aime bien, qui est un terme classique en peinture, c'est le terme de composition. Tu vois, je suis très sensible à la composition. Je sais dans une pièce, un tableau, je sais quand la composition n'est pas bonne. Ça,
selon toi, quand même.
Selon moi, voilà. Mmh. Moi, je sais, de moi à moi, tu vois. Et ça détermine très souvent le moment où je touche plus. Parce que ça, on n'a pas parlé de ça, mais moi, le travail que je fais, des fois, il s'étale sur des dizaines d'années. C'est-à-dire que là, il y a des pièces sur lesquelles il y a une dizaine d'années de travail. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas très vite de travailler sur les choses, tu vois. Des fois, je les laisse en attente. J'ai travaillé par exemple une première fois avec du goudron, de l'acrylique, et puis ça va aller dans un carton. La phase de travail d'après, je vais ressortir, tu vois, une semaine, un mois, peut-être une année, plusieurs années après. Et paf, je vais retravailler dessus, tu vois, avec un autre médium. Jusqu'à ce que je sente j'ai atteint un truc où si je passe le cap, je vais déséquilibrer complètement, et là après c'est pâté, poubelle, quoi, déchirage, etc. Donc c'est cette alchimie là, et ça c'est la composition qui est à cet endroit là, la bonne composition qui fait que ça tient dans l'espace du format, quoi. Ça c'est une magie aussi, et c'est l'enjeu du travail en tout cas. Tu vois, sans parler de sens, sans parler de... je trouve que voilà, la peinture, elle parle de ça aussi. Elle parle d'équilibre. Mais tout simplement, comme quand tu regardes un arbre dans la nature, par exemple, tu vois, tu as une forme d'émerveillement où tu sens qu'il y a un équilibre. Ça se tient, quoi. Et pourtant, l'arbre, il est penché. Il a été plié par le mistral. Il a une branche qui est un peu tordue, etc. Mais l'ensemble se tient. Et ça, c'est la composition. L'ensemble fait que cet arbre-là, il est unique et il est parfait tel qu'il est, quoi.
Il est harmonieux, quoi.
Et il n'est pas forcément harmonieux. Il peut être disharmonieux et pourtant parfait. Tu vois ? De même qu'un visage humain, par exemple, tu vois, tu vas pouvoir voir certains visages qui ne sont pas harmonieux au sens, tu vois, de la beauté canonique, etc. Mais ce qu'ils expriment est tellement juste que, du coup, c'est strictement... juste, quoi, parfait. C'est y a pas de masque, il y a pas de voilà, c'est cohérent, voilà, cohérent. C'est les êtres qui sont cohérents avec eux-mêmes, ils ont forcément un visage parfait.
Ben Georges, c'est passionnant tout ce que tu nous as dit, hein. J'espère que ça va donner envie à un maximum de gens de venir tout simplement manger chez Vincent et d'en profiter entre deux bouchées excellentes d'ailleurs, de regarder tes tableaux. Ils sont en vente en plus, non ?
Oui, alors j'ai pas mis la sculpture en vente, on va pas en parler longuement, mais bah, voilà, les sculptures sont pas à vendre, mais en tout cas il y a quelques belles pièces. Ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'il y a... Alors, il y a la salle du restaurant. Je pense que le Loco Loco est assez connu, mais on peut juste préciser.
Rue de l'Armellerie.
Rue de l'Armellerie, au numéro 9. Et il y a la salle du restaurant. Là, il y a une... l'espace est assez vivant, saturé, donc je n'ai pas chargé. Il y a une dizaine de pièces. Mais il y a la petite salle du fond que Vincent a mis à ma disposition. Et là, c'est assez bien parce que c'est une salle au fond que les gens peuvent... Là, les gens peuvent prendre le temps sans être dérangés pour être avec la peinture. Donc ça, c'est quand même spécifique parce que souvent, quand on expose dans un lieu public, il y a quand même autour les gens qui mangent, qui parlent, etc. Là, on a vraiment un espace dans l'arrière-salle où on peut se poser, s'asseoir et être avec la peinture. Donc ça, c'est chouette.
Très bien. Eh bien, Georges, merci d'être venu parler de ton exposition qui, je le rappelle, aura lieu jusqu'au 5 janvier au Loco Loco, au 9 rue de l'Armellerie, de 10h du matin vers 15h de l'après-midi.
Oui, alors je peux rajouter qu'il y a sur place, donc il y a quelques notes, il y a mon téléphone, et bien sûr, les gens qui ont envie de voir l'exposition, de prendre du temps, moi je me tiens à disposition, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, on peut ouvrir le lieu en dehors des horaires d'ouverture du restaurant. Voilà, ça demande juste à me contacter et que voilà, je me rende disponible, etc. S'il y a des gens qui en ont le désir, c'est tout à fait possible.
Merci Georges.
Merci à toi Louis.
À bientôt.
Ciao, ciao. Interview.
Hey, the bird. L'interview du jour.